À l'écoute de RFI, il est 13h10 en temps universel, 9h10 du matin à Québec, l'heure du journal d'Haïti des Amériques. Avec vous, Michael Ponge, bonjour.
Bonjour Clémentine, merci. Les 9h10 aussi à Iqaluit. Iqaluit, dans le Nunavut, dans l'Arctique canadien, où est le pape aujourd'hui. Fin de visite pour lui, on fait le bilan avec notre invité. On va revenir aussi sur la première année de mandat de Pedro Castillo au Pérou, le Nicaragua, qui ne veut pas de l'ambassadeur américain chez lui. Et puis, ensemble, Benoît Ferrand, dans le journal de la première, les tarifs du fret maritime qui baissent à destination des Outre-mer.
La compagnie maritime CMA-CGM l'a en effet confirmé hier, 25% de baisse des prix des tarifs du fret à destination des Outre-mer et donc évidemment des Antilles et de la Guyane.
À tout à l'heure Benoît et bienvenue à tous. Une dernière messe et puis s'en va. François a quitté le Québec. Dernière journée donc de sa tournée canadienne ce vendredi. Le pape étant en Arctique à la rencontre des Inuits qui attendent à leur tour des excuses dans le scandale des pensionnats. Ces quelques 150 000 enfants des Premières Nations arrachés à leur famille, enrôlés dans des établissements majoritairement catholiques pendant un siècle jusqu'à la fin des années 90. Des enfants coupés de leur culture pour être convertis à la pensée chrétienne et occidentale. Le pape a multiplié les excuses au cours de son séjour, mais nombreux sont ceux qui attendent plus. À l'image de cet homme inuit survivant d'abus infligés dans l'un de ses pensionnats en question, il devrait en faire plus, comme mettre en place des thérapies, des centres de soins de santé mentale, expliquait-il hier, avant l'arrivée du pape, donc aujourd'hui en Arctique. Bonjour Jean-François Roussel.
Bonjour.
Vous êtes théologien, professeur agrégé à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. On vous a entendu la semaine dernière dans notre rendez-vous avant le début de cette tournée papale. On vous retrouve aujourd'hui pour faire en quelque sorte le bilan. D'abord un mot peut-être de ce qui a été flagrant, comme hier à Québec, une foule clairsemée aux sentiments partagés, comme le note aujourd'hui la presse québécoise. Comment est-ce que vous expliquez ce manque d'enthousiasme autour de ce déplacement?
Bon, je pense qu'il y a une convergence de facteurs. J'en énumère quelques-uns très rapidement. Facteurs circonstanciels, ce n'est pas le plus important, mais il faut le mentionner. Cette visite-là a été organisée de façon extrêmement rapide, beaucoup plus que d'habitude, et ça s'est traduit par des ratés organisationnels et communicationnels. Je sais de l'intérieur, de sources de l'intérieur, là, que beaucoup de délégations autochtones ont tout simplement décidé de ne pas y aller parce qu'elles n'avaient pas d'informations claires sur les modalités d'accueil, de participation, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le plus important. Par ailleurs, il y a de toute façon, depuis des années, une divergence très marquée parmi les Autochtones entre ceux qui croient au projet de réconciliation et ceux qui n'y croient pas et qui n'attendent pas d'excuses du pape et qui pensent que c'est un peu une illusion ou une politique de distraction. Par ailleurs, il y a parmi la population en général non autochtone une perte de crédibilité morale importante de l'Église et c'est lié non seulement au pensionnat, mais c'est lié aussi à la crise des abus sexuels. Et finalement, une déception croissante probablement au cours de la semaine devant un peu les déclarations qui sortaient et puis le format aussi qui n'était pas toujours adéquat et des impairs qui ont été commis à certains moments par les gens qui animaient ces cérémonies.
Vous évoquez les excuses donc à maintes reprises répétées par le pape qui a exclu finalement la responsabilité de l'Église en tant qu'institution. Il a préféré, François, mettre en cause les hommes plutôt donc, que l'Église en tant que telle. Pourquoi cette frilosité? Pourquoi se limiter à cela selon vous?
Bon, disons que les positions sont partagées à l'intérieur de l'Église catholique au Canada sur cette question-là, mais depuis une trentaine d'années, l'Épiscopat, la Conférence des évêques catholiques du Canada a toujours refusé de présenter des excuses jusqu'à l'automne dernier, là, et c'est certainement pas étranger à la pression populaire suite à aux découvertes de sépultures anonymes pendant l'été. Mais donc, il y a toujours eu une résistance à dire institutionnellement, nous sommes concernés. Moi, j'ai passé la semaine à essayer de comprendre, de décoder les déclarations en me disant un peu qu'est-ce qu'on peut comprendre au regard du langage de l'Église, le langage habituel, les codes de communication de l'Église. Et j'ai fini par me dire qu'au regard des faits, c'est le seul code qui tienne, en fin de compte, lorsqu'on veut faire un peu la vérité sur quelque chose. On était vraiment en deçà des faits. On devrait aller beaucoup plus loin.
Même quand par exemple il fustige les colonisations idéologiques, hein, parce qu'on le sait, ces enfants ont véritablement été acculturés, en tout cas arrachés à leur culture des Premières Nations pour être soumis à la pensée dominante. Quand il parle de ça, le pape, même là, c'est tant de ça des attentes.
Oui, les Autochtones disent « c'est en deçà des attentes » et je suis d'accord avec eux parce que c'est au niveau des faits, on ne peut pas simplement dire « il y a eu colonisation et nous avons participé à un projet de colonisation et d'assimilation du gouvernement ». Dans les faits, dès le départ, les Oblats, des évêques, ont cru beaucoup à ce projet et ont essayé de le vendre au gouvernement. Et on peut nommer des Oblats spécifiques là, qui ont été très importants dans ce travail-là. Au Québec, les premiers pensionnats ont ouvert au 20e siècle, très tardivement, mais l'historien Rigoulet a bien montré, en fait, que les Oblats avaient joué un rôle très important pour persuader le gouvernement d'ouvrir des pensionnats au Québec, parce que déjà le gouvernement canadien commençait à douter de l'utilité, de l'efficacité de cette formule d'assimilation. Et probablement que si les Oblats et des évêques n'avaient pas fait, en fin de compte, un lobby en faveur de l'ouverture de pensionnats, on n'en aurait pas eu au Québec. Donc, c'est beaucoup plus que de dire « nous avons collaboré à un projet colonial du gouvernement ». Nous avons voulu participer à ce projet. C'est un partenariat et à certains moments, c'est nous qui y croyons beaucoup plus que le gouvernement lui-même.
Et donc à présent, la question c'est, et après, finalement, on l'a beaucoup entendu, hein, c'est une première étape tout ça. Qu'est-ce qu'attendent les Autochtones à présent, Jean-François Roussel?
Bon, un certain nombre de choses, des dossiers spécifiques. Il y a la question des archives. On n'oublie pas que depuis des années, c'est devenu beaucoup plus, encore plus sensible l'année dernière. On veut savoir ce que les enfants qui sont devenus, ceux qui ne sont jamais revenus. Alors, on demande l'accès aux archives, c'est important. Mm-hmm. Il y a des déblocages de ce côté-là en ce moment. On va voir ce que ça va donner, mais c'était encourageant. Il y a la question des compensations. Il y avait
financière, notamment.
Une entente légale, financière, oui. Mm-hmm. Il y avait une entente légale en 2006 qui prévoyait trois enveloppes, si l'on veut, là, à cet égard, de compensation de la part des organisations catholiques qui avaient participé au projet de pensionnat. Une des enveloppes a été versée, mais dans les deux autres cas, pour les deux autres enveloppes, c'est-à-dire des services non rémunérés, mais qu'on quantifie, là, ce qu'on appelle du in-kind, des services en nature, si on veut. Là-dessus, on ne s'entend pas du tout. L'Église catholique dit qu'elle a rendu ses services, mais en fait, quand on regarde la liste, on se dit ça n'a rien à voir avec des réparations pour les pensionnats. Mmh. Et l'autre enveloppe, par ailleurs, il y a eu un déblocage de ce côté-là, l'automne dernier aussi, et avec la création d'une fondation pour recueillir le montant qui avait été promis et un peu plus. Et de ce côté-là, les échos que j'ai, c'est que ça va plutôt bien en ce moment. En tout cas, en termes d'engagement de certains diocèses, on aurait déjà des engagements qui équivalent à la moitié de la somme promise sur 5 ans. Et ça, c'est après quelques mois. Par ailleurs, il y a la question des abuseurs sexuels. Mm-hmm. Et finalement, depuis 2 jours... c'est sorti, je dirais, les journalistes chez nous se demandent un peu d'où est-ce que ça vient, mais c'est l'abolition ou la répudiation de ce qu'on appelle la doctrine de la découverte. Pour faire une histoire très courte, on demande au pape ou à l'Église ou au Saint-Siège de répudier les bulles papales du 15e siècle qui, de fil en aiguille, auraient fini par migrer dans le droit des États coloniaux et qui ont un impact jusqu'à aujourd'hui sur la reconnaissance des droits territoriaux des Autochtones. Alors, on demande au pape de répudier ces bulles papales. J'apprends que Il y a un travail qui est en cours en ce moment au Vatican de ce côté-là et qui devrait aboutir prochainement.
Question de la terre qui est...
pourrait aboutir à une répudiation.
Question de la terre qui est centrale dans les revendications autochtones. Sans doute faut-il aussi associer à toutes maintenant ces revendications les autorités autochtones et leurs représentants. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans une tribune que vous signez, Jean-François Roussel, dans le journal Le Monde. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, professeur agrégé à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
12 mois qu'il est aux commandes du Pérou. Pedro Castillo soufflait hier cette première bougie avec un discours devant le Parlement. On l'entend. 12 mois au cours desquels les ministres se sont enchaînés à son gouvernement. Dans son gouvernement, plusieurs enquêtes ouvertes à son encontre et plusieurs tentatives de destitution. Pedro Castillo ne se remet pas en question pour autant et accuse au contraire tous ses détracteurs.
Ils déstabilisent et appellent à la destitution, non pas par manque de résultats ou pour des accusations inexistantes qu'ils ne prouveront jamais, mais pour défendre leurs intérêts privés et empêcher les changements que mon gouvernement est déterminé à apporter. Les médias, eux, sont déterminés à déstabiliser le gouvernement. Ils ne diffusent que les mensonges et les fausses nouvelles. Ce sont les seules choses qui sont diffusées.
Bonjour Justine Fontaine.
Bonjour.
Les journalistes qu'accuse Pedro Castillo, qui sont unanimes ce matin pour dénoncer son bilan.
Oui, le président visé par 5 enquêtes judiciaires n'a pas donné d'explication sur les affaires de corruption, dénonce par exemple le journal conservateur El Comercio à sa une. Une première page entièrement consacrée à cet anniversaire. Si le gouvernement est au bord du précipice aujourd'hui, estime le journal dans son éditorial, c'est parce qu'il a accueilli en son sein la médiocrité, l'opacité et la corruption. Plus de 120 associations appellent à organiser de nouvelles élections pour sortir le pays de la crise, rappelle La Repubblica, autre quotidien péruvien.
L'Église catholique aussi s'en mêle, Justine.
L'archevêque célébrait une messe hier jeudi pour la fête nationale qui coïncide avec l'anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Pedro Castillo. Dans la cathédrale de Lima, il a dénoncé la corruption et même les mafias dans le monde politique, souligne la correspondante du journal El País. Le quotidien espagnol publie aussi une tribune d'un analyste politique péruvien. Pour Gonzalo Banda, le président est un populiste sans le soutien du peuple. Les trois quarts des Péruviens, en effet, ne soutiennent pas son gouvernement, selon les sondages. Et d'après cette tribune, il est difficile de trouver une troupe plus néfaste que celle des ministres choisis par Castillo, qui en a limogé plus de 50 en un an. Le gouvernement de gauche se rapproche moins de Karl Marx, dit-il, que du comique américain Groucho Marx, c'est ce qu'il conclut.
Et pendant que Pedro Castillo... s'adresser au Parlement hier, ont manifesté un bruyamment, l'entend là, dans les rues de Lima pour dénoncer entre autres la corruption. Plus 36% au premier trimestre, plus 70% même sur une année. L'inflation en Argentine bat des records et le peso plonge face au dollar. C'est dans ce contexte, Justine, qu'un nouveau super ministre de l'économie est nommé en Argentine.
Son nom, c'est Sergio Massa. Il était jusqu'ici président de la Chambre des députés. Sa photo s'affiche en une de tous les quotidiens argentins. Super ministre car il reprend plusieurs portefeuilles à la fois, économie, production, agriculture. Parina Dossé a même fait un photomontage qui montre Sergio Massa en habit de boulanger, la main à la pâte, littéralement car en espagnol son nom se prononce exactement pareil que la pâte à pain. Ou le pétrin, diront certains, car Sergio Massa arrive au gouvernement en pleine crise politique et économique. Les tensions restent fortes entre Alberto Fernandez et sa vice-présidente Cristina Kirchner, tandis que l'accord passé avec le FMI il y a quelques mois pour stabiliser l'économie du pays pèse sur le pouvoir d'achat des plus modestes. Dans une tribune dans le journal Parina Dossé encore, le journaliste et avocat Mario Weinfeld souligne la fragilité du pouvoir d'Alberto Fernandez. Il n'y avait pas de président, tacle-t-il. Il y a maintenant une sorte de premier ministre, figure qui n'existe pas normalement en Argentine, mais qui vient combler un vide politique devenu intenable, dit-il.
Gouvernement fragilisé jusque dans les rangs de ses soutiens, non loin des mouvements de gauche hier à Buenos Aires. Les organisations sociales et syndicales qui jusqu'ici soutenaient l'équipe en place ont manifesté leur mécontentement. Ils ont déjà annoncé d'ailleurs une nouvelle mobilisation pour le 7 août prochain. Des relations diplomatiques exécrables, c'est un euphémisme hein, quand on parle des États-Unis et du Nicaragua. Nouvel épisode, Managua hier a retiré l'autorisation d'entrée sur son territoire du nouvel ambassadeur américain qui l'accuse d'ingérence. Tout s'est joué lors d'une audition du futur ambassadeur devant le Sénat des États-Unis. Marie Normand, expliquez-nous.
Alors oui, Hugo Rodriguez avait été nommé par Joe Biden au mois de mai, on s'en souvient, mais devait encore recevoir l'aval du Congrès. Alors hier, il s'exprimait devant la commission des relations extérieures du Sénat et dans sa déclaration, il a évoqué les prisonniers politiques, les fermetures forcées d'ONG, les Nicaraguayens qui quittent par centaines de milliers un pays qu'il qualifie de paria et de dictature.
Les États-Unis se sont prononcés contre ces abus et si ma candidature est confirmée, je continuerai à le faire.
Une déclaration irrespectueuse, ingérence, répond le Nicaragua dans une lettre adressée au département d'État américain. L'autorisation d'entrée est donc illico retirée au futur ambassadeur. Entre les deux pays, vous l'avez dit, les relations sont exécrables, très tendues, en tout cas depuis les grandes manifestations antigouvernementales de 2018 que Managua accuse Washington d'avoir pilotées. Depuis, les États-Unis ont aussi imposé des sanctions, refusé de reconnaître la troisième réélection consécutive du président Ortega, ce qui a encore plus creusé le fossé. Impossible de discuter aujourd'hui avec les Américains, c'est ce que dit le président nicaraguayen il y a quelques jours, hein, lors de l'anniversaire de la révolution sandiniste.
Quel dialogue peut-il y avoir avec le diable? Nous aimerions avoir de bonnes relations avec les États-Unis, mais c'est impossible.
Voilà, le pays reste pourtant un important partenaire commercial du Nicaragua. Washington soutient qu'une forme de communication bilatérale subsiste et que les États-Unis vont continuer à faire pression, hein, pour la libération des prisonniers politiques.
Merci Marie.
Le journal de l'Outre-mer.
Alors, c'est pas ce qui était prévu. On voulait vous parler quand même avant des inondations dans le Kentucky aux États-Unis qui ont fait au moins 15 morts. Tant pis, c'est loupé. On vous retrouve, Benoît Ferrand. Bonjour.
Bonjour, Mickaël.
Et on parle de la compagnie CMA-CGM qui a confirmé hier la baisse des tarifs du fret maritime à destination des Outre-mer.
Une baisse de 25%, soit 750 euros de moins par conteneur, une baisse diversement appréciée. Pour certains, ça ne coûtera pas grand-chose à la compagnie, qui vient, paraît-il, d'empocher des bénéfices records. Pour d'autres, c'est un geste toujours bon à prendre, comme on dit. Et c'est bien sûr l'opinion du directeur des lignes de la CMA-CGM, Grégory Foursin. Il est au micro de Cécile Mar de la Première Martinique.
C'est un effort massif de la part du groupe, ça va toucher tous les Outre-mer, et ça touche bien sûr la Martinique. C'est un geste, je pense, responsable du groupe, ça va toucher également la France. On a une décision qui a été prise également pour les volumes qui sortent d'Asie vers la France. Mais pour les Outre-mer, ça sera toutes les origines vers les Outre-mer. Donc ce geste est important, c'est qu'en termes de baisse et d'effort sur le fret, c'est 25% de moins sur les Antilles, d'accord ? C'est un effort massif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la composition des prix de vente aux Antilles, et ça a été prouvé par les autorités de la concurrence, le prix à peu près du conteneur, c'est 5 à 10% du prix de vente. 5 à 10% du prix de vente avant l'effort de 750 euros.
Direction maintenant la Guadeloupe, plus précisément l'archipel des Saintes, encore plus précisément Grand-Anse sur l'île de Terre-de-Bas, île ceinturée actuellement par les algues sargasses. Aux grandes dames de la mer, Rolande Nadie Valla, elle a été jointe par Chantal Horn.
Actuellement, nous possédons l'enlèvement des sargasses. Nos services étant un effectif réduit, nous avons été obligés de faire appel à une entreprise privée. Et il ne faudrait pas que la population s'en inquiète, même si hier, il n'y a pas eu d'enlèvement de sargasses. Si on a arrêté les enlèvements de sargasses hier pour une journée, c'était pour avantager l'entreprise qui fait la réparation des fuites sur la canalisation d'eau. Donc normalement, les enlèvements de sargasses reprennent aujourd'hui. Et vous savez, je vous dirais, même si on en enlève tous les jours, mais c'est tous les jours qu'on a des arrivages massifs de sargasses. Et puis, on n'arrive pas à voir le bout, hein. Je vous dis sincèrement, on est complètement dépassé. On en enlève tous les jours, mais malheureusement, on n'arrive pas à tout enlever. Et puis, on a des arrivages tous les jours.
Bon après-midi, bon week-end de Mickaël, à lundi.
Merci beaucoup Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. C'est parfait, on a un peu de temps finalement pour parler des inondations au Kentucky, aux États-Unis, dans le centre-est du pays. 15 morts au moins.
Et la femme qu'on entend, Rebecca, habite dans le comté de Perry. Elle montre un pont totalement submergé par l'eau. Des pluies inhabituelles pour la saison dans cet état et d'une intensité sans précédent, selon un expert météo cité par le journal local le Lexington Herald Leader. Selon le gouverneur, le nombre de morts pourrait être revu à la hausse. Il pourrait être deux fois plus important.
C'est en tout cas là une bonne nouvelle, les pluies devraient s'arrêter de tomber aujourd'hui. Merci beaucoup Justine Fontaine, réalisation aujourd'hui Claude Battista. Très bon week-end à tous et à lundi.
Tous les jours, Accent d'Europe.